Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Continuons de parler des voies d'accès à la connaissance de Dieu. C'est le titre de la section du catéchisme, du chapitre dans lequel nous sommes, où nous disons que l'homme a la capacité de comprendre l'existence de Dieu, de percevoir qu'il n'est pas seul, qu'il se reçoit de quelqu'un, même si notre époque
n'est pas disposée à ça.
Oui. Ouais. Il est question de l'homme comme une façon par laquelle Dieu finalement se donne à découvrir, à pressentir, à recevoir. Le catéchisme dit au paragraphe 33, l'homme avec son ouverture à la vérité et à la beauté, avec son sens du bien moral, avec sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, par tout ça l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. Dans cette liste, le mot conscience me marque tout particulièrement parce que récemment, dans un groupe avec des jeunes, ils ont été plusieurs à poser la question de la conscience, où ils disaient finalement qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est l'Église, la loi de l'Église, l'injonction que peut donner un prêtre, un évêque, le pape, ou sa conscience. Il faisait cette espèce de mise face à face. Oui. Peut-être que la question est un peu simpliste, mais c'est assez intéressant de se dire, on a toujours tenu le fait que la conscience est importante. Je me souviens d'un passage de saint Thomas d'Aquin où il est dit quelque chose du genre « Si ta conscience te donne à penser que croire au Christ est mauvais pour toi, est nuisible pour toi, alors mieux vaut ne pas croire au Christ et suivre ta conscience. La conscience même erronée est première. Oui. » Ceci étant, saint Thomas laisse entendre qu'il faut la corriger, sa conscience, il faut l'éclairer.
L'éclairer, tout à fait. C'est exactement cela. Vous avez l'Épître aux Romains au chapitre 14, qui est le grand lieu de la conscience faible ou de la conscience erronée, qui rappelle qu'il faut toujours suivre sa conscience. Il ne faut jamais agir dans le doute. Il faut suivre sa conscience, mais faire tout l'effort nécessaire. C'est pour cela qu'il y a la formation, c'est pour ça qu'il y a la pédagogie, c'est pour ça qu'il y a toutes ces années où on est enfant, puis adolescent, puis adulte, pour former son jugement intérieur, son jugement de conscience, capable à ce moment-là à voir où est le bien et à s'y maintenir et à éviter le mal. Le plus terrible, dit l'Écriture, c'est quand on appelle bien le mal et mal le bien, parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans une conscience inévitablement erronée et vous allez faire des dégâts terribles. Et on le voit actuellement dans des courants religieux divers, il suffit d'ouvrir un petit peu les journaux pour voir de quoi il en est. Eh bien, il y a des gens qui ont visiblement des consciences erronées parce qu'ils ont suivi à la lettre des injonctions mauvaises et ils n'ont pas mis leur conscience à l'épreuve de ces injonctions mauvaises. Sabre-les, massacre-les, et puis ils passent à l'action, si vous voulez, sans même laisser écouter leur conscience. Je regrette aussi que dans la pédagogie de l'éducation nationale, on ne donne pas plus de temps à nos grands classiques, parce que nos grands classiques nous forgeaient quelque chose en nous. La légende des siècles, par exemple, de Victor Hugo, vous vous souvenez, le meurtre de Caïn, et à la fin, cette phrase que tout le monde sait encore, pour ceux qui ont encore fait des études classiques, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Et vous voyez, c'est très fort parce que ça marque les cœurs et puis ça fait penser que eh bien, la conscience est un don qui est invariable, qui est au plus profond de nous-mêmes et que parfois, malheureusement, il y a des scories qui tombent dessus, qui la rend un petit peu supine, endormie, comme on dit, ou erronée, voire, mais on peut toujours la rectifier. Elle est comme une eau qui s'ouvre au-dedans de nous, comme une eau inépuisable qui nous désigne le bien à faire et à poursuivre et le mal à éviter. Ça, c'est une certitude de bonheur. Et c'est Dieu qui nous laisse cela, parce que c'est en Dieu qu'on trouvera notre bonheur. Alors moi, j'aime bien ce passage de saint Thomas qui dit que en Dieu seul se trouve la vraie béatitude. C'est-à-dire, il nous a tout donné pour nous orienter, mais en même temps, il aime tellement que nous soyons à son image et ressemblance libres qu'il ne fera rien pour forcer notre liberté. Ça, c'est extraordinaire. Dans le De Veritate, saint Thomas dit cela. Dieu peut tout, il est tout puissant, mais il ne forcera jamais nos libertés. Parce qu'il veut que nous soyons vraiment authentiquement à son image et ressemblance et pas des pions. Nous ne sommes pas dirigés, nous sommes libres. Il a laissé l'homme à son conseil, comme dit le Siracide. Et de ce point de vue-là, nous avons, par l'effet de la compréhension de la morale, de toutes les civilisations, nous avons un accès à l'existence de Dieu. Parce que le bien que nous pouvons faire, que font les hommes, et le mal parfois, hélas, ils font aussi, nous oriente à un discernement, éclaire notre conscience, et nous découvrons petit à petit ce qu'il faut faire et éviter.
Sur cette question de la conscience, je t'exposais le rappel de cette rencontre que j'avais. J'ai répondu, entre autres, je prenais l'exemple de l'accompagnement spirituel, par exemple, puisque pour plusieurs de ces jeunes, ils ont un accompagnateur spirituel. Et je disais, finalement, l'accompagnateur spirituel, ce n'est pas parce qu'il dit « il faut faire ceci » qu'eux-mêmes vont le faire. Ils vont peut-être faire autre chose, choisir de faire autre chose. Alors évidemment, et c'est notre rapport à l'Église et plus largement notre relation à Dieu, dans la confiance, parce qu'on a choisi de prendre un accompagnateur spirituel, parce qu'on s'en remet à la communauté des croyants, des chrétiens, parce qu'on suit le Christ, parce qu'on fait confiance à Dieu, eh bien, on va recevoir d'une oreille favorable, d'une oreille qui écoute, des choses qui vont être dites. Mais ça ne dispense jamais d'aller discerner et d'agir ensuite en conscience. Il se peut que ce qu'on ne va pas faire un jour, alors que ce serait bien de l'avoir fait, parce que ce qui a été dit par la conversion spirituelle est effectivement bien, se réalise quelque temps après. Quand on est accompagnateur spirituel, je sais que tu l'es, et moi aussi, il faut souvent être assez humble pour se dire « ce que j'ai dit là ne peut pas être compris maintenant, mais le chemin vers Dieu, la relation à Dieu, l'intimité à Dieu, qui immanquablement est chez celui qui vient nous trouver, va faire avancer, va faire mûrir la compréhension de ce que Dieu souffle dans l'homme ».
Oui, c'est dans le fond l'éternité. Dieu est dans l'éternité et à partir du moment où nous cherchons la volonté de Dieu, nous rencontrons celui qui est l'éternel. Et de ce point de vue-là, eh bien, les distances de temps entre ce qui nous semble être bien à réaliser et le moment où ce sera réalisé, on peut tout à fait comprendre que ça prenne à nos yeux une durée temporelle qui nous semble importante, mais qui n'est rien en face de Dieu, puisque c'est sa volonté finalement qui se réalise dans l'éternité. Il y a une belle expression de la définition de l'éternité. Le numéro 33 rappelle que germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière, son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul, en parlant de l'homme. Germe d'éternité. Nous avons en nous ce germe d'éternité. Donc nous pouvons très bien relativiser les atermoiements, les velléités, les incompréhensions, en sachant que finalement nous pouvons un jour ou l'autre être élevés au niveau de Dieu lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? C'est la possession totale et simultanée, parfaite, d'une vie sans fin, c'est-à-dire de la vie divine elle-même. Et c'est cela qui est notre objectif, comme nous sommes en direction spirituelle, c'est bien que quelqu'un l'atteigne, cette vie sans fin éternelle, ô éternelle.
Je saute à l'autre, un des autres mots qui a été vu. L'ouverture de l'homme à la vérité est un chemin de Dieu vers l'homme ou de l'homme vers Dieu. Mais alors, que penser de la tendance qu'on peut avoir autour de nous? Et peut-être que nous-mêmes, on se laisse avoir à certains moments. On a toujours besoin de se réévaluer là-dessus. C'est de penser que chacun a sa vérité. Ce n'est plus vraiment une recherche de la vérité, c'est une recherche de sa vérité qui finalement nous fait faire du surplace, d'une certaine façon.
Oui, à partir du moment où il y a eu, avec les existentialistes, cette idée que chacun devait développer sa vérité, et même un auteur de pièces italienne, Pirandello, on a pris un titre, « À chacun sa vérité », nous sommes laissés un petit peu pris par ce qu'on appelle le relativisme. Le relativisme, c'est un défaut dans l'intelligence qui ne veut pas aller jusqu'au bout des conséquences de son appétit de vrai. Il reste un peu à mi-course et il se met à regarder à droite, à gauche, en disant, bah oui, dans le fond, ne serait-il pas possible que toutes les voies qui conduisent à l'éternel ne soient pas équivalentes, un peu comme Symmaque à l'époque d'Ambroise, qui était le préfet quand même de Rome, c'était pas n'importe qui, il disait, je crois que toutes les religions sont égales, elles portent toutes comme attrait le divin, et pourquoi les affronter les unes les autres? Pourquoi ne en rester là? Eh bien, Ambroise lui répondit, oui, mais la vérité tout entière. Nous avons reçu le Christ qui s'est dit être cette vérité tout entière, et nous avons urgence, parce que le Christ nous l'a mis dans le cœur, que le plus d'hommes possible puissent par la foi être sauvés. Et je crois que nous rentrons petit à petit dans la nécessité de passer un chapitre suivant, qui est la foi elle-même, qui est un don de Dieu. Il y a eu des luttes, nous en aurons encore, mais nous avons un grand désir par rapport au monde, c'est que le plus grand nombre, la multitude, comme on dit au canon de la messe à l'Eucharistie, puisse recevoir ce grand don de la foi.